Bonsoir à tous et à toutes. Nous poursuivons donc, chères auditeurices, nos hors-séries de l'été avec le Festival d'Aurillac. Référence mondiale pour du spectacle vivant en espace public, Aurillac est aussi un temps de mobilisation des arts de la rue. D'autant que cette année, la fréquentation du festival a explosé, tant au niveau des propositions artistiques, des compagnies et du public. En effet, les arts de la rue ne sont pas que spectacle. En prenant conscience de son appartenance à la société, l'artiste peut mettre son art au service d'une cause et revendiquer une prise de position. Expression ou action culturelle, le spectacle vivant mobilise de nouvelles postures, base d'un argumentaire réflexif sur la société. Donc, quoi de mieux que les arts de la rue pour évoquer la question de la mobilisation et de l'engagement? Allez, maintenant, je vous laisse découvrir les spectacles engagés d'Aurillac 2024. Rendre accessible la culture, c'est quelque chose qui tient à cœur à de nombreuses compagnies. Le premier spectacle que je souhaite vous présenter est intitulé « Suzy » et est porté par les comédiennes Camille Horty et Manon Roussillon du Fut Fut Collectif. J'ai découvert ce spectacle lors du Festival de Chalon et l'ayant très apprécié, j'ai donc retrouvé l'équipe à Aurillac pour échanger alors qu'elles étaient en train de s'installer sur leur site. Avec le spectacle « Suzy », nous assistons à un vernissage décalé à ciel ouvert et qui, mine de rien, dit beaucoup de choses sur le monde de l'art et de la culture. Je vous propose donc d'écouter ma rencontre avec Camille et Manon. Alors, je suis en présence du Fut Fut Collectif avec Camille et Manon. Donc j'ai vu leur spectacle à Chalon. Et comme elles étaient à Aurillac, j'ai pris un petit peu le temps de venir discuter avec elles parce que j'ai plein de questions à leur poser parce que c'est assez chouette ce qu'elles proposent. Alors merci beaucoup.
Merci Camille de venir jusqu'à nous, merci à ce beaucoup. Collectif Cap ou pas Cap. Et toi tu es cap de venir jusqu'ici.
Donc on va peut-être commencer par une petite présentation de votre collectif et puis surtout de votre spectacle parce que c'est un spectacle un peu hybride qui mélange pas mal de choses.
Exactement. Alors, le Fut Fut Collectif, c'est un regroupement d'artistes excentriques qui est composé de 15 artistes pluridisciplinaires. On s'est rencontrés lors de la formation au Samovar École de Clown en 2017. On est sortis en 2019 et on a décidé de poursuivre l'aventure ensemble. On a créé le Fut Fut Collectif qui est basé à Saint-Denis. Mais la particularité de notre collectif, c'est que nous sommes dans toute la France. On n'a pas de point d'ancrage.
L'idée est d'être un peu partout, c'est bien, et de pouvoir jouer où le vent nous porte, comme aujourd'hui.
Et donc, dans le collectif, il y a des clowns, mais il y a aussi des musiciens, des peintres, des comédiennes, circassiennes, et des personnes qui ont été en reconversion. Donc, ça forme un grand tout assez chouette. Et il y a à la fois des spectacles en duo, en trio, et un spectacle collectif qui est en création. Et donc là, le spectacle qui nous intéresse, c'est Suzy, où on est toutes les deux.
Alors, est-ce que tu peux, Camille, revenir un petit peu sur ce spectacle Suzy? Parce qu'en plus, c'est toi qui incarnes Suzy dans le spectacle.
Tout à fait, tout à fait. Oui, alors ça s'appelle Suzy, comme on dirait une exposition de peinture, où on donne juste le nom du peintre, en fait. Donc c'était pareil, on n'est pas allé chercher très loin. Mais du coup, sinon, c'est un vernissage burlesque, donc plutôt décalé. On joue avec les codes des expositions de peinture. Comment on amène aussi le musée dans la rue, devant chez soi, sur le béton?
L'idée, c'est de créer un peu un musée à ciel ouvert. Voilà. C'est que les tableaux, on peut les voir certes dans le musée, mais aussi sur nos bobs, nos gourdes et nos chaussettes, parce qu'on parle aussi des dérivés de l'art, donc c'est les goodies des peintres, et que souvent on connaît les peintres grâce à ces goodies, et non pas le tableau qu'on n'a jamais vu parce qu'il est à Saint-Pétersbourg.
Après, on retrouve dans votre exposition, on va dire, à ciel ouvert, un peu les grands classiques. Hein, c'est aussi des tableaux, certes, on va dire, d'histoire de l'art très traditionnelle, mais qui sont rentrés dans la culture pop, soit parce qu'ils ont été utilisés
par des pubs, soit parce qu'il y a des goodies, soit parce que voilà, on les a tellement vus. Donc on retrouve la laitière, on retrouve Van Gogh. Ouais. Moi j'ai vu aussi au début, il y a un joli clin d'œil à ce que faisait Yves Klein. Voilà. Donc c'est un peu aussi une relecture de l'histoire de l'art traditionnel de manière décalée en fait.
Tout à fait, tout à fait. Et on avait construit aussi le spectacle dans une colonie de vacances au milieu. Et du coup les enfants, en fait, c'est toujours ces tableaux-là qui citent. On a essayé de faire la sélection des tableaux, on a fait un sondage avec eux pour regarder qu'est-ce qu'ils ont en tête. Et bah, en fait, c'est un peu la, comment on appelle ça, mémoire collective, ou je sais plus, c'est ça. Du coup, c'est des tableaux que tout le monde a déjà vus, ils savent plus trop où, si ça ressemble à quelque chose, les noms. Je m'éparpille peut-être dans ce que je dis.
Et l'idée aussi du spectacle avec ces tableaux, c'est qu'ils deviennent vivants. Ouais. C'est certes une peinture, mais on les rend vivants. Donc Yves Klein le faisait déjà avec les anthropométries, les femmes qui se collaient au sol dans la peinture. Mais aussi, on peut être nous-mêmes la peinture, on peut rentrer dans la peinture.
On peut être la Joconde pendant quelques minutes, et ça vaut le coup.
Voilà. On peut rentrer dans la laitière, comment aussi on désacralise, un mot un peu trop grand, mais où en fait on peut casser la peinture, elle se déchire, on s'autorise un peu à jouer avec ces codes du vernissage où c'est très propre, il faut faire attention au tableau, etc. Alors que là, on joue un peu avec la matière, la peinture, d'autres matières organiques, disons. Voilà. Oui. Et donc, nous, la peinture et ces matières avec lesquelles on joue nous transforment physiquement. Donc, au début du spectacle, on est très proprette parce qu'on est un vernissage et qu'on attend le public. Et à la fin du spectacle, le vernissage nous a un peu roulé dessus, quoi.
Il y a aussi un côté un petit peu où vous forcez à prendre du recul aussi par rapport à ce monde-là, à en rire et à rire de ces codes des fois un peu guindés, etc. C'est via le ton du clown aussi qui vous permet ça.
Tout à fait, Camille. Justement, en fait, quand il y a plein de vidéos d'archives, tout ça, on peut regarder les performances de Klein ou même d'autres, qui peignent avec leurs cheveux, et qui sont toutes. Tout le monde est très sérieux, très comme si c'était normal. Et ce qui est intéressant, c'est dans l'art contemporain, en général, il y a plein de types de performances comme ça où c'est très sérieux. Donc, c'est vrai. On s'en moque pas, mais c'est vrai qu'on voulait les réutiliser. Comment des clowns s'emparent de ça et ça devient autre chose dans tous les cas, parce qu'il y a un cadre. Selon le cadre qu'on donne aussi, ça, on oriente le public.
Et en fait, on a plus une approche. Le jeu est clownesque et absurde, mais on n'est pas du tout dans le stéréotype du clown. Ouais. On n'a pas du tout de nez, etc. On parle davantage de personnages un peu décalés, déjantés, avec des coiffures. On a l'impression qu'on s'est pris des prises. Plutôt que le clown qui arrive. Enfin, en tout cas, nous, c'est plutôt notre approche. Ouais, c'est à la fois de mêler le clown au théâtre de rue. Ouais.
Est-ce qu'en sous-texte aussi, il y a une volonté un petit peu, peut-être, d'interroger aussi ce monde-là ? Enfin, moi, je me rappelle de la petite réplique sur Picasso qui tombe pile poil, qui arrive comme ça. Il y a aussi une envie un peu de titiller, d'interroger nos regards et d'interroger la figure de l'artiste, etc.
Ouais. Ben oui, sur Picasso, oui, on sait, avec tout ce qui s'est passé aussi, c'était une manière de l'intégrer sans changer tous les tableaux. Enfin, c'est que des hommes qu'on peint. Mais c'est les grands classiques que les enfants nous citaient. L'arrière-plan en fait de chaque peintre, parce qu'on, quand on regarde les toiles, à chaque fois tout va bien, mais on s'intéresse moins à leur vie un peu. Des fois dérisoires et puis qui sont durs, quoi. Ouais. Ou...
En fait, c'est ça qui nous a intéressé, c'est aussi le derrière de la toile, c'est comment on arrive à faire cette toile. C'est une rêverie dans l'écriture. Peut-être que Johannes Vermeer, quand il peint la laitière ou la jeune fille à la perle, on voit un tableau qui dégage du calme, de la sérénité. Peut-être que lui, il est au bout du rouleau. En plus, il a 10 enfants, il n'en peut plus, quoi.
Il a été fauché toute sa vie. Enfin, du coup,
on s'amuse de ça, les petits échecs, toujours, qui est lié au clown. Mais la volonté de, je ne sais pas si c'est dénoncer, mais en tout cas d'apporter un regard, c'est venu au fur et à mesure de l'écriture. C'est qu'aussi, en reprenant ces tableaux-là, précisément, Guernica, la laitière, en fait, c'est que des hommes. Et donc, c'est
un peu, c'est la femme qui se cache derrière l'homme aussi.
Ok, ouais, bah c'est un bon moyen en fait de votre spectacle hybride, de rendre accessible en fait des choses qui peuvent paraître très culture élitiste, etc.
Oui,
de là, ça c'est
bien,
hyper
oui,
important.
Bien, ouais, mais...
Et puis aussi de nous amener ce petit côté décalé en fait, quand une œuvre, bah, il faut l'apprécier aussi dans un contexte de production, de réception, etc. Oui. Donc nous, on conseille fortement, hein, si vous croisez sur votre route Suzy et Margotine, n'hésitez pas, arrêtez-vous.
N'ayez pas peur, allez voir de la peinture, même si ça vernissage peut faire peur.
Là, c'est un peu le lien avec le public, c'est que même si on n'y connaît rien et que ça nous semble un peu abstrait, hors sol, on peut adorer, plonger dans l'art, la peinture, la musique. Mmh. On peut être touché.
Ouais. Et les arts de la rue, ça sert à ça, à créer des émotions,
ce
en fait.
Se dit.
Finalement.
Ouais.
Finalement.
Et avant que ce soit des médiums, tout ça, ouais, créer des choses, quoi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et merci.
Merci beaucoup.
Trop bien.
Cosette de Boudoir, engagée, hors série sur le festival d'Aurillac. Vous avez pu l'entendre, cela a été un échange très joyeux. Bref, un véritable plaisir de débuter Aurillac dans cette bonne humeur qui caractérise ce duo. Ici, le rire est aussi un moyen de questionner, d'interroger et de remettre en question. Derrière leur côté léger et déjanté, il y a aussi un véritable engagement pour rendre accessible l'art et la culture à tous et à toutes. Un grand merci à Camille et à Manon pour cette discussion. On va poursuivre avec cette volonté de rendre accessibles des savoirs avec le prochain spectacle, ou plutôt la prochaine conférence gesticulée. Outil d'éducation populaire, une conférence gesticulée articule, dans ses principes, des savoirs chauds, son expérience, son vécu, et des savoirs froids, analyse sociologique, théorie, notions, concepts. Gynécologue à la retraite, Isabelle Asselin a fait le choix de poursuivre son militantisme féministe avec cette conférence, l'IVG en question. Mais le mieux, c'est de la laisser se présenter.
Pourquoi je suis légitime pour parler de ça? J'ai passé 20 ans comme directrice d'un centre de planification et d'éducation familiale, qui s'appelle Centre de santé sexuelle maintenant. Et ensuite, j'ai pris la direction d'un service d'IVG à l'hôpital à Caen. J'ai jamais avorté. Mais j'ai suivi des parcours de femmes, des milliers de parcours. Et si je suis là aujourd'hui, je suis en quelque sorte leur porte-parole. Quand on fait des enquêtes, des thèses ou des mémoires sur le sujet, on donne souvent des questionnaires anonymes aux femmes qui sont dans ce parcours. Je vous avais dit au départ qu'elles n'en parlaient pas de leur IVG, ou peu. Mais quand on leur donne la parole, quand elles peuvent s'exprimer, elles ont plein de choses à dire. Les invisibles ne sont pas muettes. Voilà. Donc c'est en raison de ce parcours personnel et professionnel que je suis là avec vous pour parler de l'IVG.
Cette conférence aborde tour à tour l'histoire de la condition des femmes, les premières règles, les combats du MLF, l'accès à la contraception, les parcours d'IVG, la société patriarcale et le corps médical. Mêlant petites histoires et anecdotes de son parcours personnel, Isabelle rappelle aussi les grandes dates des combats pour les droits des femmes. Elle mobilise le public, apportant de l'intime et des connaissances pour transmettre une parole qui fait sens dans le vécu individuel et l'expérience collective. Et c'est de tout cela que nous avons discuté, comme vous allez pouvoir le découvrir. Alors, je suis avec Isabelle, qui présente à ce festival d'Aurillac une conférence gesticulée intitulée « L'IVG en question ». Et évidemment, sur une telle thématique, nous sommes allés la voir. Merci beaucoup Isabelle. Et est-ce que, pour commencer, peut-être tu peux présenter un petit peu ton association ?
Alors, je suis de Caen déjà, je veux dire de Normandie. Et l'association, c'est Assurep, c'est pour la promotion de la santé sexuelle. L'objectif, c'est de faire de la promotion auprès de tous les publics pour que tout le monde puisse se partager des informations capitales sur la santé, puisse choisir, s'autonomiser par rapport au parcours santé. Et on fait ça aussi en formant les étudiants des filières santé pour qu'ils puissent, dès le début de leur exercice professionnel, être compétents sur des sujets comme sexualité, contraception, IVG, discrimination, etc.
Il faut dire que dans les cursus des professions de santé, il y a très peu de choses. Enfin, il y avait très peu de choses, voire rien du tout. Ça frémit depuis 2017, depuis la stratégie nationale de santé sexuelle. Mais ça frémit simplement. Donc, il faut vraiment s'y mettre tous là.
Alors, ce monde professionnel de la santé, tu le connais bien, puisque tu es une ancienne gynécologue. Mmh. Et c'est pour ça aussi peut-être que tu as fait le choix de la conférence gesticulée, à la fois pour mélanger des savoirs froids et des savoirs chauds. Donc, tu parles de ton expérience de gynécologue, mais aussi tu racontes, aussi tu transmets vraiment des savoirs autour de la contraception, de l'IVG, etc.
Oui, tout à fait. En fait, je m'intéresse au théâtre depuis assez longtemps en tant qu'amatrice. Et en faisant de la prévention, de l'éducation pour la santé, je me disais que l'outil de théâtre était très intéressant pour la médiation auprès de tous les publics. Et je me suis payée la formation de conférence gesticulée quand je suis partie à la retraite. Et là, j'ai fait une grosse découverte. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire vraiment. Alors avant, on avait fait une petite troupe de théâtre. On était beaucoup. C'était difficile à se mobiliser tous ensemble. Là, je suis seule et je peux aller là où je veux. J'ai envie de parcourir la France, en fait, avec ma conférence gesticulée pour savoir surtout comment les femmes peuvent vivre ce parcours, parce que je suis persuadée que c'est très difficile par rapport à certains territoires. Le territoire présente bien des inégalités en France encore.
Dans cette conférence, moi, ce que j'ai apprécié, parce que je suis historienne de formation, c'est toute la perspective historique, montrer qu'en fait, ces droits qu'on a aujourd'hui, c'est issu de luttes et de combats. Et c'est ce que tu rappelles aussi, toi, tout au long, c'est qu'il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on a un droit qu'il est acquis à tout jamais. Et ça, c'était important aussi d'amener cette perspective, ce temps long pour faire comprendre ça.
Alors, j'ai fait, moi, de l'éducation à la santé depuis tout le temps aussi, parce qu'en France, j'ai oublié d'en parler, mais on est très axé sur le soin. Et pour moi, je pensais que ça serait certainement beaucoup plus bénéfique de faire beaucoup de prévention et d'éducation pour la santé. Et justement, l'éducation, ça se fait dans la durée. Donc, c'est la durée. Et il ne faut pas oublier ce qui s'est fait avant, parce que ce qui s'est fait avant nous aide à vivre le présent et avoir des clés pour comprendre l'avenir. En plus, avec ce qui s'est passé récemment, avec les élections et tout, c'est vrai qu'on a eu très peur parce que ce sont des droits qui peuvent être remis en cause. Et quand on remet ces droits en cause, ça veut dire que les femmes reviennent à des rôles traditionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'égalité. Et c'est des anti-libertés qui veulent nous saper nos droits. Donc c'est important que tout le monde s'en rende compte, hommes et femmes d'ailleurs.
Alors, tu reviens sur les grandes dates clés. Il y a un très bel hommage aussi à tout le mouvement MLF, etc. Et puis, à un moment, il y a un petit quiz dans ta conférence. Et là, on s'aperçoit que même si on se... Voilà, même pour moi, en me disant féministe, etc., ben, les dates, des fois, on a des petites lacunes. Et ça aussi, tu dis, en fait, avoir accès au savoir, c'est aussi une façon de se rendre autonome. Et voilà.
Tout à fait. Alors, le quiz, c'était vraiment pour aussi... parce que ça, je l'ai expérimenté beaucoup dans ma profession, c'est que les gens, par exemple les soignants, pensent savoir, mais ne réactualisent jamais leur savoir. Et très souvent aussi, il y a comme un tabou, on ne peut pas dire « je ne sais pas ». Alors que lorsque on aborde justement le chapitre des connaissances, bah, « je ne sais pas », c'est normal, on ne peut pas tout savoir. Et qu'on est en acquisition de connaissances qui permettent de dire « ah bah oui, mais bien sûr, mais à ce moment-là, bah oui, pourquoi je ne lui ai pas répondu ça ?» à celui qui m'a dit que je ne pouvais pas avoir la contraception d'urgence, qui m'a exigé ma carte d'identité si j'avais été mineure. Et moi, j'ai eu des mineurs qui ont dit aux pharmaciens du temps où il fallait une carte, enfin du temps où ce n'était pas accessible pour tout le monde, eh bien, des mineurs qui ont eu vraiment l'audace, je trouve que c'est vraiment audacieux de dire bah, « vous n'avez pas à me demander ma carte d'identité ». Mais parce qu'on en avait parlé dans les séances, parce que je vais aussi dans les séances, dans les établissements scolaires, faire des séances d'éducation sexuelle depuis 1987, je me suis formée à ça exprès, parce que ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on est bon éducateur sexuel. Donc j'ai fait une formation de 2 ans sur le chapitre de l'éducation à la sexualité, aux sexualités on dirait maintenant. Donc il faut vraiment qu'on puisse montrer que tout ça, il faut du temps. Et malheureusement en France, une fois de plus, je suis assez critique sur le système de soins puisque en France on essaye d'être dans le court terme parce que les gouvernements changent, donc voilà. Mais la prévention, ça se calcule dans le moyen et dans le long terme.
Alors tu parlais des mineurs, hein, et puis dans ta conférence aussi, il y a pas mal de petites piques envers l'éducation nationale. Il y a cette volonté avec cette conférence de rendre accessible à tous et à toutes en fait. Donc tu interviens en milieu scolaire, là tu joues dans la rue dans un gros festival. Voilà, il y a aussi cette idée-là.
Alors je joue, J'essaye depuis 2 ans de faire cette conférence gesticulée sur des dates un peu, des dates importantes pour les femmes, pour les droits des femmes. Donc je joue toujours le 8 mars, je joue toujours au moment fin novembre,
le 25 novembre.
Là, la conférence gesticulée, elle est sélectionnée dans les journées du matrimoine, qui est pendant des journées du patrimoine. Ça fait déjà la deuxième année que c'est sélectionné. Et je fais aussi ça dans les études de santé. Là, grâce à une étudiante en médecine qui a vu la conférence gesticulée, qui a trouvé ça très bien, elle est allée voir des professeurs en disant « Mais on devrait avoir ça comme cours, et non pas des cours magistraux. » De toute façon, il n'y a pas tellement de cours sur ce sujet-là dans les filières.
Oui, donc, voilà. C'est clair.
Voilà. Je joue dans des MJC, dans des centres sociaux. Une fois, j'ai joué dans un centre social, il y avait 4 personnes, mais ce n'est pas grave, quoi. Parce que moi, je pense vraiment à cette culture de contamination. Une personne informée va pouvoir aussi informer des personnes. Donc, je crois à ça, à une culture tentaculaire de l'éducation pour la santé.
Bah super, enfin, je trouve que c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas, vous cherchez l'IVG en question. Et puis après, on peut aussi contacter ton association.
Oui.
Si tu peux rappeler l'adresse mail ou...
L'adresse mail, c'est asureps@gmail.com. On est basé en Normandie, je le rappelle. Mais je peux me déplacer avec la conférence gesticulée quand ma voiture sera réparée.
Merci beaucoup. Génial.
Super.
Voilà. Bon, bah écoute, merci Camille, je suis très contente de t'avoir
rencontrée.
Voilà.
Ah non, écoute. C'est très chouette.
Pour Isabelle, la conférence gesticulée est source de sens pour l'agir ensemble. C'est un acte engagé et militant. Et je la remercie fortement pour cet échange passionnant. La question de la mobilisation est venue aussi se frotter au temps long durant ce festival. Et c'est ce que nous allons voir, ou plutôt entendre, avec la prochaine compagnie. Depuis 30 ans, le Quartet Buccal chante son engagement féministe et fait résonner les rues de son cœur de femme. Avec #Vénère, la compagnie revient avec un spectacle bilan explosif.
Y'en a ras-le-bol ! Y'en a ras-le-bol ! Y'en a ras-le-bol ! Franchement, ça fait du bien de chanter cette chanson.
Ouais, c'est une chanson qu'on a écrite en 1994. Et c'était pour notre premier spectacle qu'on a joué ici, Il est à limite.
Ah ouais, franchement, cette chanson, elle a pas bougé. Hein. Elle est comme nous.
C'est une chanson qui a 30 ans, quoi.
Comme nous.
Il y a 30 ans, quand on a commencé, on nous disait « Ah, vous n'allez jamais durer, les groupes de filles, ça s'engueule toujours. J'ai... »
Claire Chiabaye, Corinne Guimbaud, Véronique Ravier et Marissa Simon conjuguent voix, corps, énergie et humour dans ce nouveau spectacle pour revendiquer une liberté de parole et un militantisme toujours actif. Mais le mieux est sûrement de l'illustrer avec un extrait, une chanson.
Il t'a cru quoi que ton cul posé sur les ronces, t'as cru quoi aller tuer le patriarcat. Et t'as cru quoi que grâce aux luttes et aux réponses de tes tatas, les 70 ça baisse pas fermer sur les bras. T'as cru quoi qu'il suffisait que tu protèges les droits gagnés par tes aînés il y a 40 ans. Tu as kiffé, tu m'as légué tes privilèges, mais à part bien en profiter, tu as fait quoi exactement? Ma fille, tu as été témoin de mes batailles. Préparant le terrain, j'ai taillé des broussailles. Tu m'écoutes, me reprends, tu voudrais me faire voir que des nids de couleuvres se cachent dans mes armoires, que j'erre sur des chemins creusés par ce passé forgé au masculin dont on nous a gavé, toi. Tu repenses le champ et pètes ses frontières. Tu balais l'ancien monde et sa visée binaire. Et t'as cru quoi que ton cul posait sur les ronces, t'as cru quoi aller tuer le patriarcat. Et t'as cru quoi que grâce aux luttes et aux réponses de tes tatas, les 70 t'avais plus qu'à baisser les bras. T'as fantasmé l'égalité,
prôné l'universalité
en laissant dans la casserole
ceux qui n'ont pas la parole,
racisés, queer, LGBT,
ceux qui vivent dans les quartiers.
Et tu mets toujours un bémol
quand on parle de la culture du viol.
N'ai-je fait que surfer sur le flot de ma mère, écouter la phase B et ne garder que l'air?
quelquefois. De mon corps m'appartient avoir une chambre à soi.
Et t'as cru quoi qu'il suffisait que tu protèges les droits gagnés par tes aînés il y a 40 ans. Tu as kiffé, tu m'as légué tes privilèges, mais à part bien en profiter, tu as fait quoi exactement?
Tu t'es moqué des combattants,
regardisé les militants.
Ah, tu n'as pas de complexe?
Mais tu es contre la guerre des sexes.
La parité, ça fait beaucoup.
Tu te sens brusque et parmi tous.
Tu te fais violer, oui, ça fait mal.
T'as qu'à aller au tribunal.
C'est comme un précipice qui soudain nous sépare. Tu es passé devant du futur, tu t'empares. Mais qu'ai-je à me crisper à jouer la bernique? Qu'ai-je à perdre, à lâcher, refuser le déclic?
T'as cru quoi que ton cul posé sur les ronces? T'as cru quoi à la tuer le patriarcat? Et t'as cru quoi que grâce à vous, aux réponses de tes tatas, les 70, t'avais plus qu'à baisser les bras?
Quand j'ai tagué, balance ton pas.
Tu m'as dit tu, il va trop fort.
Quand je t'explique le mainstreaming,
tu t'assoupis, tu te délines.
Quand je dis faut te déconstruire,
tu manques de t'autodétruire.
Dès que je te parle un peu cash,
tu me fais un joli backlash.
La porte est défoncée, et je te suis derrière. Fais un pas de côté pour prendre la lumière, découvrir l'horizon qui est monté à pelle. Voilà que nous marchons côte à côte, ma rebelle. Ma fille, mon adorée, merci pour ce courage. Mes ailes atrophiées ont repris du plumage. De nos luttes engagées, nous ne lâcherons rien. De nos luttes engagées, nous ne lâcherons rien.
Et tu sais quoi, on va sortir le cul des ronces. Tu sais quoi, on va tuer le patriarcat. Et tu sais quoi, bah grâce aux luttes et aux réponses de nos tataliers, c'est même qu'ils ont baissera plus jamais les bras.
Engagé, un hors-série de Cosette de Boudoir sur le festival d'Aurillac. Suite à la représentation, Claire a pris le temps d'échanger autour des thématiques qui nous sont chères. Le féminisme, la lutte, l'engagement et la transmission.
Alors je suis en présence de Claire du Quartet Buccal, qui est une des quatre artistes qui composent cette chorale féminine et féministe.
Hein, on peut le dire.
On peut le dire. Peut-être d'abord, Claire, est-ce que tu peux revenir sur l'histoire du Quartet Buccal, parce que c'est quand même une chorale qui est bien installée dans les arts de la rue depuis de nombreuses années maintenant.
Oui, alors je ne sais pas si on peut dire tout à fait une chorale, c'est plutôt un groupe vocal.
Ouais.
Et en fait, on a démarré le Fêté il y a 30 ans dans la rue, à Châlons et Aurillac. Et on a tout de suite beaucoup tourné grâce à ce qu'on faisait. Donc on est quatre femmes, on chante a cappella. Et c'est nos propres chansons et c'est humoristique en fait. On est beaucoup dans l'autodérision et voilà, on rigole, on fait les fofolles. Et donc ensuite, on a développé des spectacles pour plus tourner en salle, sur plateau, avec des lumières. Et voilà, en gardant de toute manière la base, l'esprit, ça ne change pas grand-chose. C'est quelques nuances, enfin voilà. Et on a toujours dans tous nos spectacles cette base-là, mais il y en a qui sont plus intimistes, qui sont plus rentre-dedans, etc.
Donc là, Aurillac, vous présentez Vénère.
Hashtag Vénère.
Hashtag Vénère comme spectacle, et c'est une création originale. Comment c'est venu cette idée-là? Pourquoi ce spectacle-là? Bah, c'est un peu un spectacle bilan aussi.
Oui, complètement. En fait, c'est un spectacle où on se retrouve les quatre d'origine. Parce que donc depuis 30 ans, il y a l'une de nous qui est partie vivre dans le sud. Ça fait 15 ans qu'on n'avait pas fait de spectacle avec elle. Ça fait longtemps qu'on a ce projet-là, de refaire un truc avec elle. Et puis ça, c'était pas fait pour plein de raisons. Mais nous, on a continué de notre côté à travailler avec d'autres chanteuses, à faire des spectacles à trois, à être sur des événements où on était des fois 11 femmes avec des plasticiennes, etc. Enfin, on est assez tout terrain, voilà, dans notre créativité. Et là, on avait vraiment envie de se retrouver les quatre et pour le coup de revisiter notre répertoire. Donc, on a choisi en fait dans toutes nos chansons, donc de ces 17 spectacles, les chansons qu'on voulait reprendre. Et en fait, donc il y en avait certaines où Coco n'avait pas chanté, qu'elle ne connaissait pas. Et Et c'était assez compliqué. Le plus gros du temps de travail, c'était choisir ce qu'on allait chanter. Alors notre axe, c'était, on avait envie de parler de nous se situer. Donc c'est effectivement, comme tu dis, un spectacle bilan. Voilà. Mais c'était, on voulait parler, faire un bilan autour du féminisme et de notre féminisme à nous. Donc ce qu'on raconte dans le spectacle et ce qu'on a vécu. On a démarré le groupe comme ça. Tout s'est fait assez facilement.
C'est fluide, en fait.
Ouais, c'est ça. Et puis, on a commencé à écrire, à rigoler, à chanter. Puis ça faisait rire aussi les gens et à tourner pas mal. Et en fait, il y a 30 ans, en rue, il n'y avait pas tant de spectacles de femmes. Pas tant de groupes vocaux. Puis on n'était pas jolies, on se fagotait mal. Enfin, on faisait des clowns. Et franchement, ça n'existait pas, en fait. Le fait est qu'on nous renvoyait, mais vous êtes féministe. Et on a mis deux spectacles à se dire « Ah bah oui, en fait ». Et donc, dans le troisième spectacle, on avait une réflexion là-dessus. On a une chanson qu'on chante toujours, qui rend hommage aux féministes qui nous ont précédés et tout ça. Et donc, en fait, là, on se retrouve aussi, nous, on aborde la soixantaine. On a toutes des filles et elles nous renvoient des choses passionnantes par rapport... au féminisme et qui peuvent nous bousculer parfois ou en tout cas voilà qui nous remettent en question. Et d'autre part, ça fait plusieurs spectacles qu'on travaille avec Cécile Martin qui est donc à la mise en scène, qui est trop notre chouchoute et qui elle est assez à la pointe aussi des réflexions féministes, qui est une des programmatrices du WeToo Festival, donc un festival féministe qui a lieu dans le 95 en septembre. Et donc elle nous a vraiment aidé justement dans cette réflexion là, dans le choix des chansons et de ce qu'on voulait raconter, voilà. Et de faire un bilan sur nous, c'est aussi une histoire d'amitié, évidemment. Et puis qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, et puis la dérision qu'on garde de ça, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut plus dire. Nous-mêmes, il y a des chansons qu'effectivement, on ne voudrait plus chanter parce qu'on aurait peur de blesser des gens. Enfin, il n'y avait pas cette réflexion-là, quoi. Et donc, en fait, en réalité, se questionner, c'est passionnant. C'est-à-dire que, évidemment, on peut tout dire. C'est juste qu'aujourd'hui, on porte une attention, on a envie de respecter les gens tels qu'ils sont, avec leurs différences.
Ouais. Ouais, c'est presque un spectacle, finalement, passage entre le féminisme d'hier, celui d'aujourd'hui. Ouais. Et puis, il y a quand même la fin, il y a une ouverture sur peut-être ce que ça va être demain aussi. C'est ça qui est beau.
Oui, voilà, on espère, quoi. Ouais. Et le fait est que on a joué quelques fois cette année et qu'en fait toutes les générations s'y retrouvent, ouais. Plein de jeunes qui viennent nous voir en disant ouais. C'est super et tout, ça fait trop du bien. Et puis effectivement, après des gens plus âgés ou plus de notre âge qui voilà. Et donc là à Aurillac, là il y a des gens qui viennent qui nous dire ah vous aviez il y a 10 ans, et puis c'est des gamines ou des gamins, des gars aussi. Mais t'avais quel âge quand tu nous as vus? 10 ans, 7 ans, 8 ans, vraiment. Aussi, ça nous arrivait pendant un moment, parce qu'on a quand même pas mal tourné aussi, on en a fait plein, des Aurillac et des Chalons, que des jeunes filles viennent nous dire « Ah, je vous ai vu quand j'étais petite, du coup j'ai un groupe vocal avec mes copines. » Et ça fait vraiment plaisir,
ouais.
Voilà.
Ouais, c'est de la transmission aussi.
C'est une vraie transmission. Et puis nous, je pense aussi qu'on a cette fierté de se dire « Mais la vache, quoi, 30
ouais,
ans,
30 ans ouais.
On est là encore, quoi. Ouais. On a encore des trucs à dire, on rigole encore ensemble, et on a encore envie de tourner. » Et puis, c'est vraiment... Je pense qu'on est fiers de nous. Puis du coup, on a un côté quand même où on n'a un peu plus rien à prouver. Et donc, c'est chouette, ouais.
Ouais, parce que tu parles d'autodérision, de côté un peu décalé, mais quand même, vous avez des propos très politiques, quoi. Enfin, c'est quand même...
Oui.
Il y a ce côté-là. Alors, maintenant, c'est bon, on y va, quoi.
Maintenant, on y va, oui. Alors, ce qui se passe aussi dans l'histoire du quartet, c'est qu'en fait, on a démarré toute insouciante. On a eu cette réflexion autour du féminisme et puis après il y a eu les grèves pour la défense des intermittents du spectacle et ça a été assez mobilisateur pour tout le monde en fait. Et donc chacune après s'est engagée plus ou moins dans un domaine ou dans un autre, mais on a fait beaucoup de grèves en 2003, en 2014 donc là ça s'ouvre aussi... l'antiracisme pour plein de raisons personnelles
à l'actualité aussi,
à l'actualité
politique,
voilà,
en France,
l'extrême droite, etc. Et donc le fait est que dans ces chansons là comme c'est des reprises qu'on a choisies, on les chantait il y a longtemps et le fait est c'est toujours d'actualité et ça c'est chaud, quoi.
C'est chaud, ouais.
On se dit c'est pas facile en ce moment, bon. Et je trouve, et je pense que là on est toutes pareilles, que justement avec les temps difficiles qu'on vit là et ce qui arrive devant, y a quand même quelque chose de très joyeux dans les luttes féministes et écologistes aussi, et puis souvent c'est lié.
Oui.
Et vraiment plein de créativité, des inventions, c'est très beau, et ça c'est beaucoup d'espoir, quoi.
Bah, comme votre spectacle, en fait, moi je l'ai trouvé très joyeux avec cette fin où tout le monde se retrouve, enfin voilà.
Alors, donc à la fin, on invite les femmes à venir chanter, faire une chorale avec nous, mais ça on le faisait il y a 30 ans, ouais. Dans le premier spectacle. Ouais.
Donc comme quoi il y a des choses qui restent.
Et, ouais, ça fait toujours du bien, quoi.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci Camille.
On va vous souhaiter encore 30 ans au quartet.
Au moins ça.
Hein. Merci énormément.
Merci.
Parce que c'est vraiment très très chouette et ça fait beaucoup de bien. Merci.
Super, merci beaucoup.
Les spectacles du quartet buccal sont toujours teintés d'une grande humanité et offrent un moment de sororité et de puissance, comme nous allons l'entendre avec ce dernier extrait. Et pour tout cela, je les en remercie. Aurillac est aussi un espace où l'on peut découvrir des compagnies émergentes. La compagnie que j'aimerais vous présenter a été mon petit coup de cœur de cette édition 2024. En effet, la compagnie Inclassable, composée de Margot Ménian, Noémie Sarcé et Clémentine Coquiot-Lebrenne, a fait le choix de l'univers du conte pour proposer un récit d'émancipation et d'affirmation de soi. Avec le spectacle « L'ours », c'est bel et bien une version ancienne du conte de Podane qui nous est proposée. Celle écrite par Gianbattista Basile, comme on va pouvoir l'entendre avec le prochain extrait.
« Ce n'était pas une blague, le roi voulait vraiment... » Épouser sa fille!
Bah non!
Ah bah si!
Passer la corde au cou! Image!
Ah non, le mariage, c'est passer la bague au doigt!
Bah ça dépend du point de vue, hein!
Et pareil!
Lorsque Preciosa, sa fille, comprit, elle entra dans une telle colère que nulle parole humaine ne saurait l'exprimer.
Mais la force de cette compagnie est d'en faire véritablement un récit qui redonne à son héroïne le choix d'être qui elle veut et d'échapper à sa destinée.
Ah mais je suis pas naïve, hein. Je vois bien le genre de conte que c'est là. Ça va te plaire au début, hein, la nouveauté. Et puis après quoi? La peau, elle va finir devant la cheminée, souillée par tes bottes toutes crottées quand tu reviendras de la chasse. Et pendant ce temps-là, moi je serai où, hein? En train de préparer le repas peut-être?
Non mais la charge mentale, on s'y fait.
Quoi? Attendez les filles là. Pause. La charge mentale. Non. Non, on peut pas laisser passer ça. Là c'est... Non, c'est pas possible. En fait là, juste 2 secondes, on se pose. Écoutez ce qu'elle dit, Preciosa. Elle a envie de retourner à la forêt. Elle a trouvé un espace à elle, un corps à elle, qu'elle est en train de découvrir, qu'elle a envie d'explorer. Elle a des nouvelles sensations, c'est un monde tout nouveau. Elle peut pas se laisser enfermer comme ça dans un château encore. Enfin, c'est son choix.
Ouais.
On pourrait peut-être l'aider un peu à faire ce choix-là, quoi, à garder le sien.
Bah ouais.
Il nous semblait plus que nécessaire d'échanger avec Margot, Noémie et Clémentine afin de revenir sur ce projet engagé. Alors, je suis en présence de Noémie, Clémentine et Margot de la compagnie Inclassable. Nous sommes sur le collectif La Collective. Leur spectacle L'Ours vient de se terminer et j'avais vraiment envie de les rencontrer pour discuter de ce conte qu'elles proposent. C'est un conte qui a été un petit peu réécrit. Est-ce que tout d'abord vous pourriez un petit peu présenter votre compagnie? Parce que c'est une jeune compagnie. Et puis, pourquoi ce projet d'avoir choisi un conte et d'avoir choisi une version plus ancienne et peut-être un peu plus féministe de Podane?
Alors la compagnie est née de la fin de notre formation avec Margot. On a fait le théâtre des ateliers à Aix-en-Provence, qui est du coup une formation en compagnonnage qui incite beaucoup à faire de soi-même et à vraiment se lancer et y aller. Donc on s'est lancé à trois avec donc une autre de la compagnie qui s'appelait Pauline, qui s'appelle toujours Pauline d'ailleurs. On a créé, en fait on a gardé l'énergie de la formation pour être directement en résidence et commencer à créer. On a voulu partir sur un jeune public parce que le public enfant, on trouvait qu'il avait un regard assez franc et en fait on peut pas tricher avec les enfants parce qu'ils voient tout de suite s'il y a un truc qui est pas logique ou autre, et ça nous intéressait de travailler vraiment dans ce sens-là et de repartir sur une base de jeu en partant de rien, juste de nous, et de vraiment être dans cette énergie de jeu et de se lancer et de jouer pour jouer et de rire de ça. Et après, je ne sais pas si tu veux continuer, Margot.
Oui. et donc, on a essayé de chercher un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. On était intéressés de commencer par un conte, justement, parce que ça a une valeur assez forte dans notre société. Les contes, c'est quelque chose d'un peu admis, que c'est transmis aux enfants, que c'est des bonnes choses, entre guillemets. C'est un peu aidé de la psychanalyse des contes de fées, de Bettelheim, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait être intéressant, justement, à reprendre, à retravailler. Et à partir de là, on a trouvé Podan, qui est un conte qui n'a pas été adapté par Disney. Il y a un film qui est un peu, qui est beau, ouais, qui est très poétique. Et on s'est dit, mais c'est dingue quand même, parce que c'est quand même un conte qui parle d'inceste. Mmh. Et donc, voilà, on s'est dit, bah, celui-là, personne n'a vraiment repris pour l'instant. Donc, ça nous intéressait d'aller toucher ça, d'aller chercher un peu cette matière-là. Et donc, on a eu envie de partir de ce conte, mais le plus ancien qu'on puisse trouver. Parce que pour nous, c'est important de partir d'une espèce de base, voilà, la moins transformée qu'on ait pu trouver. Donc on est tombé sur L'Ours de Giambattista Basile, qui est du coup un auteur du 17e.
On cherchait aussi à faire quelque chose qui nous plaisait. Dans ce qui était intéressant à travailler pour nous, il y avait aussi toute cette histoire de nature, de transformation, de corps. On voulait vraiment travailler le thème de la femme, de remettre l'héroïne au centre et de retravailler sur le corps et de repartir de la possession de ce corps-là. Et donc quand on a découvert L'Ours, ça a été une grosse révélation quand même, parce qu'on s'est dit, elle se transforme en ours, c'est énorme.
Ouais, elle se transforme vraiment en un animal hyper puissant, ouais,
qui est masculin, qui est très masculin, ça, en fait, ouais, l'ours. Donc, ouais.
Souvent dans l'imaginaire collectif, on le rattache plutôt à quelque chose de sauvage et de masculin, quoi. Mm-hmm. Et là, c'est complètement retourné. Ça vous permet aussi... Donc vous avez pris une version très ancienne de ce conte, mais vous en faites une lecture aussi très très moderne, parce qu'il y a des moments où on sort du conte et vous commentez avec votre regard en fait féministe d'aujourd'hui. Vous abordez la question du poil, du consentement. Ça vous permet aussi de faire comme ça, de distiller des petites infos, des petits tips, des petits rappels quand même,
hein, en fait. Mais ça nous permet à la fois de faire des petites blagues de temps en temps, le fait de pouvoir commenter et de rajouter des choses quand le conte nous choque, entre guillemets, de pouvoir dire « Ah oui, alors ça, avec notre regard, on trouve ça pas terrible » ou alors on a envie de pointer, enfin de montrer ça. Et voilà.
Ça va un peu dans la démarche. On voulait partir d'un conte parce qu'on ne voulait pas réécrire quelque chose nous-mêmes. Parce que déjà, c'est très difficile. Et on voulait, comme on a lu tout ce qui était de Bettelheim, etc., où il y a quand même une vérité dans les histoires qui se transforment, qui continuent, et on voulait repartir de cette base-là, mais tout en se l'appropriant. Et finalement, on s'est surtout servi de ça pour dire « ça existe ». Mais on n'est peut-être pas obligé de le garder comme tel.
Donc vous avez aussi réécrit, ou comme tu le disais, réapproprié ce conte-là. Qu'est-ce que vous avez changé par rapport à cette version italienne ?
Plein de choses. La question serait plutôt qu'est-ce qu'on a gardé ? Parce que vraiment, en fait, ce qui est marrant, c'est ce qu'on dit au tout début du spectacle dans l'intro, c'est que le conte n'est pas écrit pour les enfants du tout. C'est vraiment écrit pour les gens de la société classique, pour... J'ai un peu envie de dire pour pour exorciser des choses qui sont un peu taboues. Et donc, il était vraiment très trash, ce conte. Il a vraiment des façons de dire, de parler de l'inceste qui sont très, très visuelles, très dérangeantes. Et donc, on a voulu garder ce côté sauvage, mais sans en faire quelque chose de... Je ne sais pas comment dire, mais de vulgaire, entre guillemets. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose d'un peu... un peu raide à lire, quoi. Donc, on a essayé de garder tout ce qui nous permettait de dire on est dans un conte, quand même. Donc, il y a des conventions du conte, il y a des manières de... Il y a des petits mots qui font que, OK, c'est ancien, c'est pas tout à fait moderne. Et ça, ça nous permet pas mal de, justement, apporter notre commentaire pour avoir des ruptures qui sont intéressantes. De dire, là, on comprend très bien que c'est un commentaire parce que c'est pas du tout la même... pas du tout le même style, quoi.
Vous en faites, du coup, un récit d'émancipation, en fait, et d'affirmation de soi, de son autonomie. Et ça, c'est un super message à délivrer dès le plus jeune âge. Donc, est-ce qu'il y a une volonté aussi, peut-être un peu, d'éducation, de pédagogie dans ce projet-là ?
Je pense que forcément, il y a le fait d'avoir envie d'amener des valeurs qui sont d'inclusivité et le fait de pouvoir décider de son destin, donc d'amener ses valeurs à des enfants plus jeunes qui voient pas forcément ça dans d'autres histoires, et en même temps de le rappeler à tous les ados, adultes, personnes plus vieilles, et c'est un conte et notre spectacle qui a l'air de parler un peu à tout le monde, et donc je pense que oui, voilà.
En tout cas, le message est réussi, le spectacle aussi. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Un grand merci à Margot, Noémie et Clémentine pour cette rencontre que nous allons conclure avec un dernier extrait de leur spectacle.
On connaît tous le conte du soir, s'il raconte, c'est à toi de voir.
Et si la reine faisait du rap,
et si
le roi dansait le tango,
et si la vieille faisait du surf,
et si le prince devenait matelot,
si les crapauds avaient des ailes,
si les châteaux étaient hantés.
Quoi?
Hein? Bah, hantés, la forme.
Ah oui, si j'ai... Ok, c'est stylé. Et si les reines n'avaient pas droit?
Oh, si les princesses avaient le choix,
si les enfants faisaient la loi,
et puis si tous les gens, là, ils élevaient leur voix avec des scies,
On coupe du bois.
Pas trop, quand même.
Mais par contre, avec des récits,
on plante des graines.
Ouais, ouais, après ça repousse.
Si on réécrit les histoires, nos destins sont peut-être moins noirs. On connaît toutes les contes du soir qu'ils racontent. C'est à toi de voir.
Cosette de Boudoir, engagée, hors série sur le Festival d'Aurillac. Le Festival d'Aurillac, c'est aussi de nombreux collectifs qui s'installent dans les cours d'école, les squares, les parcs, afin de proposer un programme de spectacle. Depuis l'année dernière, la Collective est un collectif se revendiquant féministe, intersectionnel et plurispectaculaire, avec une chouette programmation de compagnies et de spectacles engagés. J'ai donc rencontré Ivy Blake, référente bénévole, Margot Ménion, commission sécurité et bienveillance, Margot Richard, régie générale, Jeanne Bell et Maïlis Girassol, coordinatrice, pour évoquer leur collectif et échanger autour de leur engagement dans les arts de la rue.
Alors, je suis en présence de Maïlis, Margot, Ivy, Jeanne, Margot, qui font toute partie du collectif La Collective, présente pour la deuxième année sur le Festival d'Aurillac. Et je les remercie fortement de m'accorder un peu de temps c'est la folie de ce festival et de toutes leurs responsabilités au sein de ce collectif. Alors, c'est un collectif qui s'affiche et qui se revendique féministe et autogéré aussi. Est-ce que vous pouvez un petit peu rapidement présenter les principes de la collective et aussi peut-être expliquer quels sont vos rôles et vos fonctions au sein de ce collectif, parce que en plus vous appartenez toutes à des compagnies.
Moi c'est Ivy, je suis la référente des bénévoles et aussi la référente pour le campement, pour le collectif, la collective, et je joue un spectacle là-dessus aussi. Je suis revenue cette année parce que l'année passée j'ai été bénévole Et quand j'ai eu l'opportunité de jouer en tant qu'artiste, ça m'a aussi happée de pouvoir passer le relais et prendre en charge aussi les bénévoles ayant été à leur place l'année passée. Donc moi, je suis impliquée plutôt à ce niveau-là.
Alors moi, je fais partie de la commission coordination. On est deux et du coup, l'idée, c'est de faire le travail d'envoyer les mails, de surveiller la boîte mail, d'essayer de veiller à ce que les commissions, toutes les commissions différentes communiquent bien entre elles, d'organiser les réunions, de faire un peu voilà, le lien entre tout le monde.
Je suis la deuxième coordinatrice. Je dirais qu'un de nos objectifs, ce n'est pas de prendre des décisions, mais c'est que chaque commission soit décisionnaire à leur échelle et que si ça mérite d'être réfléchi avec plusieurs commissions, c'est les commissions elles-mêmes qui doivent se consulter et non pas à la coordination qui est là juste en fait pour faire de la coordination, à proprement parler. Voilà.
Et moi, je suis Margot, je suis référente de la commission communication et j'ai fait aussi partie de la commission sécurité et bienveillance. Donc je pourrais répondre un peu à quelques questions.
Et moi, je suis aussi Margot, je m'occupe de la régicite. Mon rôle, c'est de m'assurer que tout fonctionne et que tous les spectacles puissent se réaliser dans des bonnes conditions.
Merci beaucoup. Donc la collective, c'est une quinzaine de compagnies, c'est ça? Comment ça s'est passé, vos rencontres entre les compagnies? C'est déjà des affinités qu'il y avait avant, vous connaissiez? Comment ça s'est un petit peu passé?
C'est la deuxième année de la collective. La première année, ça s'est créé parce qu'il y avait un réel manque de visibilité de la place des femmes, en particulier sur le festival d'Aurillac et avec beaucoup de coordinatrices dans les collectifs, mais très peu de spectacles portés par des femmes dans ces mêmes collectifs. Et donc là, la volonté, c'était de trouver un espace où les femmes puissent avoir leur mot à dire. Voilà, donc ça s'est construit il y a 2 ans. Donc on a mis 1 an à créer la première collective. C'est un réseau de circassiennes, enfin c'est parti d'un réseau de circassiennes de Toulouse. Mais rapidement ça s'est su, je pense. Et donc du coup voilà, petit à petit on a touché, enfin en 1 an on a touché des spectacles aussi qui sont des spectacles de danse, des spectacles de théâtre, des spectacles de poésie, etc. Et c'est plus un collectif toulousain, mais c'est un collectif plutôt au niveau national.
Ah, la oui, compagnie Rumba, ils sont argentins.
Donc effectivement, collectif international. Excusez-moi.
Alors vous avez une attention hein, pour rendre visibles les personnes sexisées dans votre programmation, mais il y a aussi une attention pour faire de cet espace-là un espace safe et bienveillant pour tous et toutes. Comment ça se met en place, ça?
Eh bien, au sein de la commission, on s'est aidé de tout ce qui existait déjà, en fait, de choses qu'on avait déjà vues exister dans les festivals qu'on avait déjà fait. Donc, par exemple, le Terrelou, qui est du coup un organisme, un collectif, je ne sais pas exactement quelle forme ils ont, mais qui imprime des petites cartes pour faire de la prévention. On a utilisé les affiches du Bouillon Cube, du coup, qui est pareil, un regroupement de personnes qui a beaucoup travaillé et planché sur le sujet. Donc on n'a pas réinventé l'eau chaude, effectivement, mais c'est très important pour nous, d'autant qu'on est toutes des personnes qui ont subi des violences, des discriminations dans nos vies. Pour nous, c'était vraiment hyper important que ce lieu-là soit un lieu où tout le monde puisse se sentir un minimum en sécurité. Moi j'étais pas là l'année dernière, mais cette année en tout cas on a mis en place un espace de prévention, de bienveillance où les gens peuvent trouver des ressources, peuvent trouver des personnes à qui parler, à qui, et aussi du matériel, que ce soit pour de la prévention en termes de relations sexuelles, de la réduction des risques pour les personnes qui prennent des drogues, pour éviter tout type de contamination globalement en fait. Voilà.
Je rajouterais aussi qu'on, l'année dernière, en tout cas, on a été un lieu ressource par rapport à la discrimination vis-à-vis des policiers. Et du coup, voilà, il y a une femme qui est venue se réfugier à la collective l'année dernière. Et je crois qu'aujourd'hui, on est encore vu comme telle dans ce lieu. Et on accueille, enfin, on est aussi là pour ce qu'on appelle de la sororité. Et donc, s'il y a une personne qui se fait taper à n'importe quelle heure, on peut être là.
Et on a été là. Ouais, c'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps.
Du coup, voilà, comme c'est la deuxième année, c'est vrai que le collectif il commence à bien être connu dans Aurillac et d'être connu aussi pour ça, en fait, tout ce que vous venez dénoncer, la bienveillance, la sororité, la volonté de rendre visible. Quels sont les retours un peu du public qui vient vous voir? Comment, voilà, qu'est-ce qu'on vous raconte un petit peu
Nos toilettes sont très propres, il paraît.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai, je confirme. En troisième jour de festival,
c'est la deuxième année.
Ouais, c'est ça. Alors j'avoue que moi personnellement je cours un peu partout, du coup j'ai pas trop le temps de discuter avec les gens, mais il y a une personne qui est venue me voir tout à l'heure qui est sur une pastille sans collectif et qui est bénévole pour une compagnie, qui m'a dit qu'elle avait fait le tour de plusieurs collectifs et qu'ici elle s'était sentie très bien, que c'était à la fois grand et pas trop grand et qu'elle avait très envie de pouvoir proposer la compagnie pour laquelle elle est bénévole l'année prochaine. Voilà, donc ça m'a fait très plaisir d'entendre ça.
Ouais, on voit qu'il y a un public très familial en fait, et ça circule bien.
Ça me fait plaisir de voir qu'on puisse accueillir un public assez familial sans enlever un message qu'on a envie de faire passer ou que ça touche au propos du spectacle. On n'estime pas que des sujets un peu plus politisés ou peut-être un peu plus difficile pour certains publics, ça n'empêche pas que ça peut être pour tout le monde en fait.
Est-ce qu'il y aura une édition 3 de la collective l'année prochaine?
Oui.
Non, c'est super chouette. Ben, on se retrouve l'année prochaine du coup.
Ouais.
Je vous souhaite à toute une très belle route.
Merci.
Et puis une bonne fin de festival et puis au plaisir de se retrouver l'année prochaine.
Merci.
Merci. Un grand merci à Ivy, Margot, Jeanne, Maëlys et Margot pour ce riche échange. On se donne donc rendez-vous l'année prochaine. Alimenter l'enjeu politique de la rue, transformer le quotidien, devenir un espace privilégié de l'engagement, voici les prochains défis des arts de la rue. Actes volontaires, ceux-ci peuvent aider à rassembler, à faire rêver et à mobiliser. Cette volonté de retrouver un collectif se pose comme un préalable à la prise de conscience que l'action politique du spectacle vivant est réelle. Elle tend à remettre véritablement en jeu la question de l'espace public. Un très grand merci à toutes les compagnies, collectifs et équipes. Fut Fut Collectif, l'association Azureps, le Quartet Buccal, la compagnie Inclassable et La Collective, qui ont pris de leur temps pendant ce festival pour répondre à mes questions, pour partager et pour échanger. Une émission enregistrée durant le Festival d'Aurillac 2024, avec les aléas climatiques, la géographie chaotique des lieux et la difficulté d'élaborer un planning. Mais c'est aussi ça, le Festival d'Aurillac. Allez, salut et à la prochaine! Vous pouvez écouter et réécouter nos émissions sur toutes les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux sociaux.
Être féministe, c'est lutter.